Suite de la marche du monde à l'historial de Péronne, 100 ans après la Grande Guerre, RFI s'associe à la réflexion menée par le Centre de Recherche Internationale de la Grande Guerre autour des premières fois dans la Grande Guerre. Comment les expériences de guerre sont-elles vécues par les contemporains du premier conflit mondial et plus particulièrement par les soldats, ceux qu'on n'a pas oubliés, ceux dont les noms sont gravés en lettres d'or sur les monuments aux morts. C'est en effet une des questions majeures posées ici. Quelles sont leurs premières expériences extrêmes de la guerre. Stéphane Audouin-Rousseau, Franziska Einberger, Nicolas Beaupré, Gerd Krumeich sont dans la marche du monde et nous font partager le fruit de leur recherche. Je les en remercie.
Alors, pour imaginer le premier assaut, la première rencontre avec l'ennemi, c'est qu'on était normalement bien retranché déjà. Et que les Français accouraient. Là, on est en août 14. On imagine que les Français accourent et on est assez protégés. On ne les reçoit pas à grand renfort des fusils et des mitrailleuses. On les attend. Ils arrivent avec un grand hurrah. On les attend. On les chasse. Les Allemands sont un peu mieux adaptés à la guerre moderne que les Français, je pense.
Gerd Krumeich, comment faut-il imaginer la première expérience du feu, du combat, du côté allemand?
Les soldats allemands, dans cette expérience nouvelle de la guerre, parce qu'on leur avait beaucoup parlé de guerre, ils n'avaient jamais vécu, ils devaient voir que le feu tue à distance. Et c'est l'expérience la plus importante. Ils avaient attendu un soldat en pantalon rouge qui accourt et qu'on va arrêter à coup de fusil. Ou à la baïonnette, ça c'était leur idée. Mais ce qui est nouveau pour les soldats allemands, c'est l'expérience du feu qui tue et on ne voit pas d'où ça vient. Le feu à distance. Et c'est ce qu'ils ont le plus craint. L'expérience aussi que les chevaux avec lesquels on voulait si bien attaquer et que ça tombait en masse, et non pas par la fusillade d'un ennemi qu'on voyait, mais par un bombardement, comme on disait à l'époque, à distance. Donc ça, c'est une expérience vraiment nouvelle, et les soldats racontent, écoutent, dans cet affrontement, on a eu 5 camarades morts et 3 chevaux. Il a fallu des mois à s'habituer à cette situation, que le feu qui tue peut venir de n'importe où, de l'inconnu.
Comment imaginer cette première expérience du combat? Stéphane Audouin-Rousseau, Gerd Krumeich nous dit il a fallu des mois aux premiers Allemands pour s'habituer, pour comprendre ce qui se passe. Pareil de l'autre côté.
Oui, bien sûr. Gerd Krumeich a raison de souligner que l'expérience du feu est nouvelle. En tout cas, elle est nouvelle pour les Français, les Allemands, les Britanniques qui combattent à l'Ouest à l'été 14. C'est-à-dire, ouais, la guerre russo-japonaise en 1905, déjà, est une expérience très importante de champ de bataille vide, où on ne voit pas l'adversaire et où ceux qui sont à côté de vous tombent sans qu'on sache comment, pour quelles raisons ils tombent. Mais cette expérience, elle avait été enregistrée, évidemment, par les états-majors, par les observateurs militaires des différents camps, mais elle n'avait pas été intériorisée par les soldats d'Europe occidentale qui combattent à l'été 14. Je crois que l'expérience du feu et de ce feu donc infligé à distance est extrêmement dense, extrêmement vulnérant. C'est une expérience de plusieurs ordres. C'est une expérience, bien sûr, corporelle. Il n'y a rien de plus compliqué qu'un apprentissage corporel. On le sait bien dans le sport, hein, en particulier où il faut des entraînements très longs, très répétés, pour pouvoir être capable donc d'effectuer les gestes qui sont prescrits. Tout le monde n'en est pas capable et ça s'oublie. Donc cet apprentissage corporel des soldats face au feu, se coucher, s'enterrer, creuser un trou alors qu'on est couché, tout ça n'est pas simple. Hein. Il a fallu effectivement beaucoup de temps pour savoir faire avec son corps devant le feu. Bien entendu, ce savoir-faire était toujours très relatif. Le feu était beaucoup plus puissant que les moyens de se protéger soi-même de ce feu. Deuxième chose, c'est l'apprentissage, si je puis dire, sensoriel. Comment réagir de manière exacte à une agression inouïe des sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, et même le sens de l'équilibre, qui ne fait pas partie des 5 sens, mais qui est très important, le toucher. Comment, au fond, adapter ces sens, donc ils sont saturés par l'expérience initiale. Et puis, bien sûr, lié à cette dimension corporelle, l'expérience psychique. qui est inséparable, une expérience psychique de terreur, mais qui est une expérience effectivement très, très, très riche également. C'est tout cela qui est en jeu, je crois, en même temps à l'été 14. Et que les combattants allemands, français, britanniques étaient complètement débordés physiquement, sensoriellement, psychiquement par cette expérience initiale, ça me paraît absolument évident. Ils font comme ils peuvent, car les apprentissages étaient évidemment insuffisants, mais de toute manière, aucun apprentissage n'aurait été suffisant face donc à l'intensité et à la nouveauté du feu moderne.
Les hommes sont pulvérisés, ils tombent au champ de bataille, Stéphane Audouin-Rousseau, mais aussi leurs chevaux, nous dit Gal Krumach. Et vous-même, vous avez retrouvé des lettres dans votre propre famille avec des descriptions bouleversantes où l'on voit les cadavres des hommes et les cadavres des chevaux mêlés dans la boue.
Ce qui est très important avec cette histoire de chevaux, c'est que le cheval est la plus anthropomorphique des créatures animales. Le cheval, c'est l'homme. Le cheval n'a pas de pattes, il a des jambes. Le cheval a une bouche. Dans des sociétés européennes où le cheval était extraordinairement présent dans la vie quotidienne, y compris dans les villes, où l'attraction est très largement hippomobile, le cheval est une créature du quotidien qui fait corps littéralement avec les hommes. Et c'était particulièrement vrai dans la cavalerie, qui était l'arme de rupture sur le champ de bataille. Et ce choc, donc la mort des chevaux est très souvent métaphore, bien sûr, de la mort des hommes, d'autant plus que le spectacle des chevaux morts, les cris des chevaux blessés aussi, était une agression sonore vécue comme insupportable et immédiatement rabattu hein, sur les êtres humains. Entendre un cheval qui hurle, le voir un cheval éventré, c'est voir un homme qui hurle, c'est voir un homme éventré.
Nicolas Beaupré, je sens que vous allez vous faire
un
une autre lecture. Alors, voilà, vous prenez l'initiative,
bien,
je vous la laisse.
Ça traduit bien cet attachement de l'homme au cheval et cette rencontre aussi, puisque pour beaucoup d'hommes, le début de la guerre, c'est aussi justement la rencontre avec le cheval qu'on peut lire dans un témoignage qui vient d'être publié d'un artilleur qui s'appelle Yvan Cassagno et qui décrit justement cette rencontre entre l'homme et le cheval. Avec les chevaux, c'est autre chose. Quand ils sont tous réunis, il faut les baptiser et les affecter. Le lieutenant chargé de l'opération prend un petit Larousse et de A jusqu'à Z, au hasard des pages, dit un nom que le sous-officier secrétaire inscrit sur un cahier, avec un signalement sommaire. Mais les hommes ont tôt fait de changer cet état civil. Une vieille jument, dont la lèvre inférieure pend lamentablement, est appelée la Joconde. Il y a Poincaré, le Capitole, la Blonde. Pour constituer les attelages, on tient compte de la robe et de la force. Dans l'ensemble, le choix est facile. Mais chez les bêtes, comme chez les gens, on tombe sur de mauvais caractères. Certains manifestent une telle incompatibilité d'humeur qu'il faut les séparer sur le champ.
Et ce texte date de quelle année ?
C'est un carnet de guerre donc, qui est repris et réécrit après la guerre et qui vient d'être retranscrit et republié.
Et on voit que cette dimension fusionnelle entre l'homme et le cheval, une double douleur de la perte. Nicolas Beaupré, ce qui est passionnant et émouvant, je trouve, dans ce que vous avez pu décrire, vous, dans ces écrits de guerre, c'est cette volonté absolue des écrivains combattants de ne pas dire la guerre, en quelque sorte. Hein. En tout cas, de ne pas dire toutes les violences de la guerre. Alors pourquoi, au début, parle-t-il de sacrifice ? Il parle de mort pas inutile, c'est le cas de mort pour la patrie. Hein. Il ne parle pas réellement de leur peur ou de leur souffrance terrible. Vous citez notamment l'écrivain combattant français Henri Barbusse. « Mon sacrifice ne sera pas inutile », écrit-il.
Oui, alors il fait dire ça à un de ses personnages. Hein, donc, ces textes sont à la fois du témoignage et de la littérature. Alors, je serais quand même un peu plus nuancé quand vous dites que les écrivains ne disent pas tout. Effectivement, ils ne disent pas tout. Effectivement, ils interprètent, c'est-à-dire qu'ils projettent du sens sur un vécu de guerre.
Alors, quel sens projettent-ils justement quand ils utilisent ces
alors,
termes
le sens,
de
vous
sacrifice
l'avez...
pas inutile, par exemple ?
Les textes qui sont écrits pendant la guerre sont pris dans une matrice culturelle, en fait, qu'on peut appeler la culture de guerre ou les cultures de guerre. Les textes littéraires écrits par les combattants s'inscrivent aussi dans cette espèce de puissant cadre à la fois social et culturel. Et donc, ces écrivains utilisent les imaginaires qui sont à leur disposition. Et effectivement, le sacrifice pour la patrie, c'est un héritage qui vient de cet apprentissage qui a été évoqué au début de l'émission par Stéphane Audouin-Rousseau, à la fois à la caserne et à l'école, et qui donne un sens finalement à la mort. Parce qu'il faut pas oublier non plus, on l'a déjà dit dans cette émission, que les premiers mois, les premières semaines de la guerre sont extrêmement mortifères et correspondent notamment pour la France hein, aux taux de pertes les plus importants de toute la guerre, qui ne seront même pas égalés pendant la bataille de Verdun. Et donc il est nécessaire de donner un sens à cette perte immense des débuts de la guerre. On puise finalement dans des répertoires de sens qui préexistent. Et après, ça, évidemment, ça évolue avec le temps. Ils sont questionnés, ces sens.
Alors justement, cette question de la violence au centre de cette première expérience de la guerre, il l'évoque, mais en même temps, lorsque la violence concerne les viols de guerre, les massacres de civils ou les massacres de prisonniers, ça devient la violence de l'autre.
Alors effectivement, il est plus facile toujours de projeter sur l'ennemi des violences de guerre auxquelles on peut assister pendant le conflit. Ça, c'est la solution de facilité en quelque sorte. Quand on parle des violences de guerre, et en particulier de celles qui sont les plus extrêmes, il est toujours plus facile de projeter sur l'ennemi des pratiques en fait qui sont largement partagées par l'ensemble des armées. Hein, donc on va parler, quand on est français, de l'Allemand qui ne fait pas de prisonniers ou qui traîtreusement semble se rendre et puis finalement sort son arme au dernier moment. Et abat celui qui veut le capturer. Donc on a toutes sortes effectivement de mises en récit de ces violences extrêmes qui servent à dire la cruauté de l'autre, on va dire. Mais peu à peu, il faut quand même nuancer les choses, les écrivains vont essayer de rendre compte, de réfléchir, d'aller au-delà finalement de ces stéréotypes qui tendent à dire l'autre comme barbare et qui sont très présents dans la littérature, il s'agit bien entendu pas de les nier, pour essayer dans les interstices finalement de dire quelque chose de ces violences extrêmes. Et pas seulement de la violence reçue, mais aussi de la violence infligé. Mais on se rend compte effectivement que c'est extrêmement difficile. Par exemple, Maurice Genevoix, dans les témoignages qu'il a publiés pendant la guerre, il dit cette violence infligée, il dit qu'il abat des boches. C'est seulement après la guerre qu'il va revenir sur son témoignage et qu'il va enlever ces passages. Souvent, ces récits, ces moments de la violence infligée peuvent parfois être dits pendant la guerre, parce qu'on abat un ennemi, mais sont beaucoup plus difficiles à dire parfois même après la guerre, dans l'après-coup.
Comment les violences extrêmes vécues ou commises par les soldats autant de premières fois dans la Grande Guerre, c'est un des thèmes passionnants abordés ici au Centre international de recherche de Péronne avec une centaine d'historiens venus du monde entier 100 ans après le premier conflit mondial. Et vous, Franziska Einberger, vous envisagez la façon dont pour la première fois les différentes nationalités se rencontrent malgré elles et comment les armées respectives tente de donner des outils de compréhension avec des manuels linguistiques. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que vous mettez en avant ce petit manuel à l'usage du soldat allemand où l'on peut lire « Si vous mentez, vous serez fusillé ».
Il s'agit en effet...
Explication.
Il s'agit en effet d'un document très intéressant puisque ils sont secs les guides de vocabulaire. C'est assez quelque chose de très neutre, on sent pas la vie derrière. Mais, de temps en temps, on voit des petites phrases. Si vous montez, vous serez fusillé. Dans le livre, qui a beaucoup de traductions, de mots de tous les jours, de pain, d'ordres qu'on peut donner.
Oui, c'est d'abord pour la vie quotidienne.
Ça sert pour ça. Mais les exemples qui laissent transparaître une réalité derrière sont, par exemple, ma phrase préférée, « Les cochers qui se trompent exprès de chemin seront fusillés ». On sent l'expérience du terrain, on sent quelqu'un qui dépend en fait du civil. Il a le pouvoir, c'est lui l'occupant, il peut s'imposer, mais en même temps, il est démuni, il est dans un terrain qu'il connaît pas, il dépend des civils, qui peut menacer, mais c'est une négociation compliquée.
Quel est le statut au fond de ces interprètes, si on veut prendre au moins les exemples allemands et français? Ils sont des combattants, ils sont pas des combattants, ils sont des témoins?
C'est différent. Alors, ceux que je connais le mieux, c'est ceux entre les troupes britanniques et les troupes françaises. Ceux-là, ce sont des intermédiaires jusqu'à un certain point, mais jamais vraiment neutres, puisqu'ils sont pris dans les deux camps. Et ce sont surtout des témoins privilégiés. Ce sont des gens qui ont beaucoup écrit, qui ont beaucoup laissé de traces, parce qu'ils voulaient rendre compte. C'est eux qui avaient vu les Britanniques au combat et qui tenaient à raconter à leurs compatriotes français ce qu'ils avaient vu, parce que finalement, ça se savait pas tant que ça. Ils ont laissé des récits, ils ont cherché à donner un sens aux différentes réactions nationales qu'ils voyaient face à la guerre, face à la violence. Donc on les voit, par exemple, développer des métaphores. La fameuse métaphore des Britanniques comme sportifs. Ils vont à la guerre comme si c'était du sport. C'est quelque chose, on les voit percevoir une approche différente de la guerre et ils cherchent alors à donner un sens en utilisant des métaphores.
Stéphane Audouin-Rousseau, est-ce que ces premières fois des premiers qui vont à la guerre, est-ce que leurs premières expériences servent aux autres, à ceux qui arrivent juste derrière?
C'est difficile de le dire. Par exemple, on voit très bien que, je parlais tout à l'heure des apprentissages corporels, sensoriels et psychiques. On voit très bien qu'une fois que la guerre de position est installée, que les combattants développent ces savoir-faire, par exemple pour se protéger, de la chute d'un obus, faire très attention à un abaissement du parapet à tel endroit, parce que si à ce moment-là on passe devant, la tête est visible et on peut être visé par un tireur d'élite. Ces apprentissages sont transmis, me semble-t-il, semble-t-il, au sein des troupes, aux nouveaux arrivants. Quand les soldats novices viennent compléter les unités, ils sont transmis verbalement, mais on voit néanmoins que les taux de perte de ces soldats novices sont très élevés. C'est-à-dire que pour s'aplatir immédiatement au sol, sans aucune hésitation, quel que soit le sol, au moment où on entend tel type de sifflement d'obus, ne s'apprend pas par des mots. Apprendre instinctivement à se baisser à un endroit dangereux dans une tranchée, dans un boyau, eh bien, ne s'apprend pas par des mots, même si on vous l'a signalé 10 fois, eh bien, c'est souvent un soldat novice qui se fait abattre. Je suis frappé souvent dans les témoignages de ce taux de mortalité des soldats juniors qui sont éduqués au plus près par ceux qui savent, et c'est une leçon très importante hein, sur le plan de du dressage militaire, mais qui pourtant doivent faire leur propre apprentissage corporel, sensoriel et psychique. C'est en ce sens que l'expérience, je crois, était finalement difficile à transmettre. Inversement, on s'aperçoit par exemple à la fin de la guerre, quand les troupes alliées à partir de l'été 18 sont à l'offensive, à quel point les corps ont été dressés pour un certain type de combat, le combat de position, et la lenteur avec laquelle ces corps doivent être remis en mouvement vers l'adversaire. Et même quand il y a un danger relativement faible, les soldats ne savent plus courir à l'assaut. Les soldats américains le savent, oui, eux, parce qu'ils n'ont jamais été dans les tranchées, ils le savent, ils appliquent à ce moment-là un dressage offensif préalable. Mais les soldats britanniques, les soldats français ont beaucoup de mal, de nouveau, à faire ce qu'ils savaient faire au début de la guerre et qu'ils ne savent plus faire, hein, en quelque sorte, à la fin.
Vous l'avez dit, Stéphane-Edouard Rousseau, donc guerre imprévisible, hein, et on a beaucoup de mal, effectivement, à faire cet apprentissage. Guerre également inouïe, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce son assourdissant de la guerre. Est-ce qu'on peut s'y habituer? Est-ce qu'il s'y habitue? Ou est-ce que, au contraire, certains en deviennent fous?
Inouï, ça veut dire nouveau. Voilà. Évidemment, c'est d'abord par le son. Hein, et l'exposition qui est en ce moment en cours à Péronne sur le son de la guerre le rappelle. Le son est la première prise de contact avec le front. Avant de voir quoi que ce soit, les soldats, quand ils s'approchent pour la première fois, entendent. Ils entendent de loin. Le son est une expérience absolument centrale. Ce que l'on peut imaginer ou ce que l'on peut transposer à partir de notre savoir filmographique aujourd'hui du son de la guerre qui n'a été recréé cinématographiquement que à partir du début des années 30, à partir du cinéma parlant, ce son, il nous est pratiquement impossible de le comprendre aujourd'hui parce qu'il ne passe pas seulement par les oreilles, il passe par la vibration reçue dans le corps. Ce qui me frappe, c'est à quel point finalement les soldats sans doute ne s'y habituaient pas et en même temps s'y habituaient, puisque le nombre de témoignages qui traitent de l'endormissement des soldats sous le martèlement, en pleines offensives, au bout d'une heure ou deux, une sorte d'épuisement sensoriel, physique, psychique qui se produit, et dans un bruit atroce, les soldats s'endorment. Donc, vous avez là toute une négociation de tension entre ce que peut supporter finalement l'individu et la manière dont son corps s'y adapte.
Nicolas Beaupré, vous l'avez dit, autre évolution, celle des écrits de guerre, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du conflit, puis ensuite après la guerre, quand on va écrire sur ce qu'on a vécu, ou même quand on va vouloir reprendre ce qu'on a écrit sur ce qu'on a vécu en tant que soldat, on voit bien une évolution. Et ce qui n'était pas dit au début va être de plus en plus abordé. On a le sentiment qu'on peut se libérer de cette figure du patriote.
Alors des choses vont être dites et d'autres vont être tues. Les écrits d'après-guerre, en fait, se caractérisent par deux choses. La première chose, c'est une fictionnalisation, en fait, de plus en plus importante de la guerre. Donc un passage par la fiction, par le roman, par un travail véritablement littéraire sur l'expérience, alors qu'on a des témoignages beaucoup plus bruts pendant le conflit. Aussi parce qu'il y a un temps de latence entre les deux grandes vagues de la littérature de guerre, qui sont celles de la période de la guerre elle-même, dont on oublie un peu que c'est pendant la guerre qu'il y a le plus de textes sur la guerre qui sont publiés. Et puis la deuxième grande phase, souvent qu'on retient davantage, parce que justement, à cette deuxième grande phase de la fin des années 20 et du début des années 30, appartiennent les grands textes canoniques sur le premier conflit mondial. Que ce soit à l'Ouest rien nouveau, de Erich Maria Remarque, Le Grand Troupeau de Jean Giono, Napoléon, ou encore le début du Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline.
Et à l'Ouest, rien de nouveau, qui deviendra aussi un film ensuite.
Oui, et qui est ensuite effectivement transposé au cinéma. Cinéma qui permet justement aussi de tenter de reconstituer l'univers sonore, mais de manière imparfaite, puisque justement la dimension corporelle disparaît, encore que les récits de la projection notamment d'un film allemand, le Westfront 1918, les premières projections, en fait, les gens s'évanouissaient dans la salle, et pas à cause de ce qu'ils voyaient, mais à cause de ce qu'ils entendaient. Ils le disent parce que c'est la découverte du cinéma sonore qui faisait s'évanouir les gens. Alors, pour en revenir à la littérature, premier élément, donc une fictionnalisation, un travail littéraire qui s'accompagne effectivement aussi d'une transposition au cinéma. Et puis, deuxième élément aussi très important, une politisation de plus en plus grande de ces textes, avec une dimension pacifiste beaucoup plus affirmée souvent, qui est une prise de distance par rapport aux représentations qui étaient à l'œuvre pendant le conflit et qui va insister sur la violence infligée aux combattants et qui va progressivement transformer la figure du poilu, plus généralement du combattant de la Grande Guerre, quand on parle pas seulement de la France, d'un héros ou d'un martyr à une victime d'une violence qui perd progressivement son sens. À mesure qu'on s'éloigne de la guerre, le sens de celle-ci se perd, une distance s'établit avec lui.
Et Francisca, à travers les traductions, est-ce qu'on va pouvoir aussi découvrir l'expérience de l'autre ?
On va découvrir des traductions, effectivement, et c'est quelque chose qui n'a, à ma connaissance, pas été étudié pour l'instant, c'est la circulation de ces textes après la guerre. Parce qu'effectivement, tous les grands textes qu'on connaît, français, allemand, britannique, ont été traduits, ont circulé, souvent plusieurs fois. Il y a une étude à faire sur la comparaison de ces traductions, de voir comment ils évoluent dans le temps, ce que ça nous dit sur les différentes sociétés concernées, celles dont vient le texte, celles où il est reçu, celles qui il est lu, différemment selon les périodes. C'est un sujet sur lequel on sait pour l'instant très peu, mais très prometteur.
Un prochain colloque, alors,
peut-être,
au Centre international de recherche de Péronne. Stéphane Audouin-Rouzeau, finalement, après avoir réfléchi à toutes ces premières fois pour le combattant de 14, pour ce soldat confronté pour la première fois à cette guerre moderne, inouïe et imprévisible, à la lumière de toutes ces réflexions, qu'est-ce qu'on peut dire de son expérience ?
C'est difficile de vous répondre parce que ces basculements successifs des premières fois, il y a la première fois au début de la guerre, puis il y a toute une série de premières fois ensuite. Ce que je retiendrai personnellement, au fond, de tout cela, concernant les soldats, c'est à quel point il faut s'intéresser justement aux questions de temporalité. Je crois que d'une manière générale, quand on s'intéresse à la guerre, on s'intéresse pas suffisamment au temps de la guerre. On s'intéresse à la guerre comme si la guerre était un événement, certes tout à fait exceptionnel, mais qui se produit dans un temps unique qui serait le temps de paix. Il n'y a qu'un seul temps. Et puis, voilà, ce temps est interrompu par la guerre. Et puis après, la guerre elle-même s'interrompt et on revient au temps d'avant. Je crois que cette vision, apparemment logique, objective, est une vision totalement fausse si on se place du point de vue des acteurs sociaux et notamment du point de vue de ceux qui sont le point le plus intense de la guerre, ceux qui la subissent au premier chef pour la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire les soldats. C'est eux qui subissent la violence et il n'y a pas d'histoire de la guerre sans histoire de la violence. Ça ne veut pas dire que l'histoire de la guerre, bien sûr, ne doit s'en tenir qu'aux soldats. Mais si on les oublie, si on oublie l'expérience combattante, on oublie le centre même de l'événement. Donc ce qui m'apparaît comme de plus en plus à la fois difficile à travailler et important, c'est au fond comment, pour les soldats, la guerre les fait passer d'un temps dans un autre. Et comment se fait ce basculement ? À quel moment ? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul basculement ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Et si on ne comprend pas l'entrée dans ce temps autre, qui fait que toutes les perceptions peuvent être changées, les manières de sentir, de penser, les attachements, les affects. Si on ne sent pas ce basculement, eh bien, on reste complètement en dehors de l'événement lui-même. Je veux dire par là qu'on ne peut jamais se placer dans l'œil des acteurs sociaux. Bon, pour moi, travailler sur les soldats, donc pendant le premier conflit mondial en général, c'est être capable de se placer autant que possible, et ça ne sera jamais tout à fait possible, mais autant que possible dans leur œil. Et pour se placer dans leur œil, il faut se placer dans leur temps. C'est vraiment la leçon que je tire de ces journées, c'est à quel point le temps vécu est absolument central si on veut approcher d'un peu plus près les premières fois de la guerre pour ceux qui assument au premier chef sa violence.
Avant de se quitter, Nicolas Beaupré, est-ce que vous accepteriez de nous faire une dernière lecture ?
Alors je vais reprendre peut-être Yvan Cassagno et revenir au thème de notre émission qui est l'inouï de la découverte de la violence. On est le 20 août. Hier, nous avons reçu le baptême du feu. 2 officiers, 8 sous-officiers et 117 hommes sont morts ou portés disparus. Le matin, au cours de l'avance, nous avons pu nous rendre compte des effets terrifiants du canon de 75. J'ai compris pourquoi les Allemands nous appelaient les bouchers noirs. Le 6e a littéralement haché l'infanterie adverse. Surpris à faible distance, soumis à un tir aussi bien préparé qu'au polygone, rapide et intensif, les fêtes gras ont été fauchés par rang entier. À notre passage, tout ce qui reste de valide dans le village est occupé à creuser une longue tranchée pour y enterrer les morts. 8 chariots transportent les cadavres. Quelle tristesse et quelle pitié.
Merci Nicolas Beaupré, Francisca Enberger, Gerd Krumach. Merci Stéphane Audouin-Rouzeau. Vos différents ouvrages sont à retrouver sur la page de la Marche du Monde sur RFI.fr. 1914, des combats inouïs, imprévisibles. C'était une édition de la Marche du Monde réalisée par Cécile Pompeani en partenariat avec le Centre international de recherche de Péronne. Et un grand merci à sa directrice, Caroline Fontaine. Écrivez-nous, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.
Tu n'en reviendras pas, toi qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Que nos buts a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre, et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux.